Tamani.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
Il est 8h à Bamako et partout au Mali. Mesdames, messieurs, bonjour, voici le titre de ce journal. C'est parti depuis hier à Bamako pour la vente promotionnelle des moutons initiée par le gouvernement, dénommée opération Tabaski. Elle devrait commencer ce mercredi dans les régions de Kaï, Sikasso, Ségou et Mopti. Objectif selon les autorités, faciliter aux populations l'accès aux moutons. La Commission nationale des droits de l'homme dénonce de graves violations de droits humains au centre du Mali. Au même moment, l'ancien président de la transition et son PM sont toujours en résidence surveillée, une situation qui condamne l'Association malienne des droits de l'homme. Examen en cours de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger par le Conseil national de transition. Il s'agit d'expliquer, de faire comprendre aux membres du CNT le contenu du document afin de faciliter sa mise en œuvre. Le développement de ce titre avec Sekou Gadjigo à la mise en œuvre de Gagné Kanté. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Tout d'abord, cette information, le curé de la paroisse de Ségué, Abbé Léon Duyon, a été libéré hier mardi dans l'après-midi. L'information a été communiquée par l'évêque du diocèse de Mopti, Monseigneur Jean-Baptiste Tchama. Léon est actuellement à Bandiagara pour se reposer. Il nous reviendra ensuite à Mopti, a-t-il indiqué dans un communiqué. Pour rappel, l'abbé Duyon avait été enlevé le 21 juin dernier par des hommes armés non identifiés avec quatre autres personnes alors qu'ils se rendaient aux obsèques de l'abbé Oscar Tira à Saint. L'édition 2021 de la vente promotionnelle des moutons a démarré hier à Bamako à une semaine de la fête de Tabaski. L'opération se déroule du 13 au 19 juillet et va concerner les régions de Kaï, Sikasso, Ségou et Mopti. Selon les autorités, celles-ci indiquent que les prix des moutons varieront cette année entre 40 000 et 125 000 francs CFA. Notre reporter Mamadou Samasekou s'est rendu sur l'un des points de vente 6 en commune 4 du district de Bamako pour constater le démarrage de cette opération, suivant son reportage.
Au niveau de ce point de vente, plus connu sous le nom de Chabaterin, c'est des centaines de moutons qui sont visibles de tous les côtés. Les vendeurs et acheteurs sont aussi au rendez-vous. Vêtue d'un grand boubou chocolaté, tout en sueur, Elfousseni Cissé est venu acheter des béliers. Des minutes après son arrivée, il ne cache pas sa satisfaction pour avoir acquis 3 moutons à des prix abordables, dit-il.
Ces moutons sont assez abordables. On remercie le bon Dieu. Ici, on peut dire que c'est pour les pauvres. J'ai acquis mes moutons à 115 000 à 125 000 francs CFA. On remercie les autorités et on prie Dieu pour de telles initiatives.
Selon l'un des responsables du site, même si les prix sont relativement élevés cette année, l'initiative du gouvernement a des avantages pour les clients et les vendeurs. Cheikh Dembélé.
Ça varie de 50 000 jusqu'à 125 000. Il y a 3 couleurs. Quand on vient sur le terrain du gouvernement, on ne paie pas des impôts, on ne paie pas l'eau, on ne paie pas les terrains. Il y a la sécurité. C'est ça qui nous aide beaucoup. Ça fait une semaine. Le jour même du Tabaski, ça c'est le contrat est fini. Le terrain appartient à la mairie.
Au-delà de cette vente promotionnelle, il y a des cachets particuliers cette année, nous dit la Direction nationale de production et industrie animale. Selon son directeur Bakary Dembélé, cela permettra d'avoir un nombre important de moutons à Bamako et environ.
Le gouvernement est en train d'entreprendre des convois sécurisés pour faire en sorte que les marchands qui viennent avec les animaux ne soient pas importunés en cours de route. Donc ça fait qu'il y aura une masse importante d'animaux qui sera dans le district de Bamako.
Notons que la vente promotionnelle dans les régions commencera ce mercredi 14 juillet selon les informations recueillies sur place à Chabaterin.
Reportage signé Mamadou Samasegou. Vous pouvez réagir à ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. L'Association malienne des droits de l'homme dénonce l'assignation à résidence de l'ex-président de la transition et son premier ministre, renversé le 24 mai dernier par le colonel Assimi Goïta, actuel président de la transition. Bandao et Mokhtar Wane sont toujours en résidence surveillée et sont privés de tout mouvement et de parole selon l'AMDH. L'association demande leur libération. Juliette Koulibaly.
Une villa de couleur jaunâtre, sise à la cité du Niger, est la résidence du premier ministre Mokhtar Wane. À la porte, on a perçoit 4 militaires et une voiture de marque Prado noire. Les forces de sécurité sur place nous confirment que c'est bel et bien la résidence de M. Mokhtar Wane. Mais pour y accéder, il faut un ordre venant de notre hiérarchie, ajoute-t-elle. Le gérant d'un kiosque près de la résidence nous indique, sous couvert d'anonymat, que l'ex l'ex-premier ministre est dans cette résidence, interdit de tout mouvement. Je fais des opérations pour M. Wan. Ses enfants vaguent librement à leurs occupations. Souvent, M. Wan sort pour prendre de l'air, témoigne notre interlocuteur. Après la cité du Niger, direction Djelibougou, à la villa Daoula. Ici résiderait l'ancien président de la transition Bandao, selon des sources. Mais sur place, un militaire en faction à l'entrée et un autre sur le toit refusent de répondre à nos questions. Un groupe de jeunes assis en face nous affirme que Bandao est à la base B. Mais là également, impossible de faire parler les militaires en poste. Dans un communiqué, l'Association malienne des droits de l'homme a condamné ce lundi la rétention des anciens présidents et PM en résidence surveillée. L'AMDH a demandé leur libération ainsi que les autres personnes détenues.
Au même moment, les populations continuent de subir la loi des groupes extrémistes dans le centre du Mali. Selon la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, des femmes enceintes sont éventrées et des hommes castrés par ces groupes terroristes. Elle appelle les autorités à mettre fin à ces crimes horribles et abominables. Aguibou Bouaré, président de la CNDH, est au micro de Draman Maïga.
Le centre du Mali connaît aujourd'hui une recrudescence et une récurrence des abus et violations des droits de l'homme. Nous avons recensé des cas d'abus et de violations des droits de l'homme. Et ça s'est traduit en assassinat, en meurtre, parfois des femmes enceintes qui sont éventrées. Et nous avons même appris et nous sommes en train d'investiguer là-dessus qu'on procède parfois à la castration des hommes. Vraiment, les populations subissent les martyrs. En matière de droits de l'homme, l'État est le principal responsable. C'est à l'État d'assurer la sécurité, que les dispositions idoines soient prises afin d'assurer une jouissance effective des droits de l'homme aux populations qui vivent dans ces zones-là.
Aguibou Bouaré, président de la Commission nationale des droits de l'homme, il était au micro de Draman Maïga. Je vous le disais dans les titres, le Conseil national de transition a débuté hier une séance d'examen du contenu de l'accord pour la paix et la réconciliation selon les conseillers du CNT. Ces journées de réflexion qui se poursuivront jusqu'au 5 août 2021 permettra aux membres du CNT de mieux connaître le contenu du document afin de faciliter sa mise en œuvre. Plus de détails avec Lala Aïcha Walet Infa.
Pour Adama Ndjara Diben Le Cerveau, toutes les parties de l'accord pour la paix et la réconciliation qui violent la Constitution doivent être révisées. Selon lui, ces amendements doivent faire l'objet des nouvelles assises nationales.
D'un papier qui viole la constitution du Mali, qui met en cause l'unité nationale. Je suis d'accord que les Maliens se retrouvent à travers des assises souveraines, nationales et inclusives pour poser les vrais diagnostics, les vrais médicaments et les vraies solutions à la crise malienne.
Cependant, pour Mohamed Oud Matali, aussi membre du CNT, ses explications du contenu de l'accord d'Alger aux conseillers du CNT ne visent qu'à faciliter son application.
Le CNT, c'est la représentativité du peuple. Une fois que le CNT s'approprie de l'accord, c'est une manière où à leur restitution, ils pourront comprendre largement qu'est-ce que ça veut dire l'accord. Et l'accord, les lacunes aujourd'hui, c'est le fait que ce n'est pas approprié par les populations. C'est pourquoi aujourd'hui, on est en train de les discuter ici. Et j'en suis sûr qu'il en sortira de très bons résultats.
Toutefois, des responsables de groupes armés ont récemment annoncé que la possibilité de relecture intelligente de cet accord envisagé par les chefs du gouvernement pourrait être fatale à tous les acquis de la paix.
8h08 à Bamako. Place à présent au dossier de la rédaction. En matière d'emballage au Mali, les sachets plastiques restent les plus prisés sur le marché. Ils sont quotidiennement utilisés dans les foyers, les boutiques, les services, entre autres. Pourtant, ces sachets ne sont pas biodégradables et ont un effet négatif sur l'environnement. Des citoyens comme Aliou Cissé d'Isol s'engagent de plus en plus à lutter contre l'utilisation de ces sachets plastiques. Lale Tangara l'a rencontré à Bamako. Écoutons son reportage.
Aliou Cissé, alias Zol, danseur chorégraphe, se dit engagé dans la lutte contre les sachets plastiques. Couvert de plastique tout au long de son corps et sur sa moto, il traverse la ville pour passer un message. Pour Zol, les déchets plastiques n'ont pas d'utilité et devraient être remplacés par d'autres supports.
On mange dedans, on fait tout avec cette plastique-là et après on le jette. Vous-même, vous voyez à côté parce que c'est en train de détruire la nature. Il y a beaucoup de choses qu'on peut utiliser comme les bambous, comme les papiers aussi qui peuvent remplacer ces déchets plastiques-là.
Oumout Traoré, vendeuse, dit être consciente des dangers liés à l'utilisation de ces sachets.
Certains clients viennent acheter de l'arachide et d'autres achètent de la glace en détail. Et ils exigent à ce qu'on le mette dans les sachets plastiques. Sinon, nous savons qu'ils contribuent à dégrader la nature.
Pour Mamadou Goumane, environnementaliste, ces déchets visibles partout à Bamako infectent quotidiennement l'environnement.
La dégradation par la nature se fait difficilement. Une fois que ces déchets sont libérés dans la nature, il faudrait en moyenne 80 jusqu'à 400 ans afin que la nature parvienne à les dégrader à 100%. Comme impact du point de vue environnemental, ça va contribuer à dégrader nos ressources de terres arables. En termes d'agriculture, ça peut avoir des impacts sur la fertilité des sols.
L'Assemblée nationale avait adopté en 2014 une loi interdisant la production et l'exportation des sachets plastiques sur le sol malien. Mais ce texte peine à être appliqué.
Dossier signé Lalé Tangara. Faisons à présent le point de l'évolution de la maladie à coronavirus. 10 nouveaux cas de COVID-19, 250 patients guéris et 0 décès ont été enregistrés hier mardi par les autorités sanitaires. La situation cumulée à ce jour est de 14 486 cas positifs, 10 655 guéris et 528 décès. C'est ce qui nous conduit à la rubrique Actu COVID présentée ce matin par Khalifa Goïta.
Auditrices, auditeurs, bienvenue à votre rubrique consacrée à l'actualité du coronavirus actif COVID. Aujourd'hui, nous donnons la parole aux auditeurs qui posent des questions par rapport à leurs inquiétudes liées à la COVID-19. Ces questions sont répondues par des spécialistes de la santé, suivant les conversations.
Docteur, les femmes enceintes doivent-elles faire le test de dépistage COVID-19?
C'est valable pour tout le monde. Ça a été montré qu'il n'y a pas de couche qui ne fasse pas la maladie. Il y a des femmes enceintes qui sont tombées malades, qui ont été soignées dans les différents instituts. Il y en a qui sont même décédées, d'autres sont sorties. Donc c'est bien logique que les femmes enceintes soient dépistées, puisqu'elles font partie de ce groupe de personnes vulnérables à cause de l'immunité légèrement effondrée.
Y a-t-il un risque de porter un masque déjà utilisé?
Oui, si la personne qui avait déjà porté le masque a la maladie, déjà le masque est contaminé. Donc s'il l'enlève, quelqu'un d'autre le porte, donc ça peut contaminer cette personne. C'est pour cela que la majorité des masques non lavables, on propose à la personne de ne pas dépasser 4 heures de temps. Donc les masques lavables aussi, on ne doit pas dépasser 4 heures de temps, on doit nettoyer, laver chaque fois.
Allô docteur, le coronavirus évolue-t-il en fonction des saisons?
Il y a des virus ou des bactéries qui ont des comportements qui varient en fonction de la période. Et ce n'est pas le cas pour le coronavirus. Parce que le coronavirus a montré qu'il n'y a pas de limite ou frontière par rapport au climat, par rapport aux saisons. Ils arrivent à se propager liés à nos comportements.
Allô docteur, bientôt c'est la fête des Tabaski. Quels sont les comportements que les populations doivent adopter en ces moments de grands rassemblements?
Ces comportements, c'est la même chose à l'intérieur des familles qu'au niveau des espaces de prière. Parce que là-bas, tous les gens doivent se retrouver au niveau des espaces de prière. Et généralement, après la prière, les gens se donnent les mains. Donc c'est surtout ce côté qu'on doit beaucoup sensibiliser les gens, mettre des points de lavage. Et tous les gens se lavent les mains avant de se regrouper au niveau des points de prière. Donc, parce qu'ils peuvent apprendre la maladie et ramener en famille. Donc, au niveau des familles, c'est toujours les mêmes gestes, de sorte que les gens se lavent les mains. L'espacement entre les gens, c'est le seul moyen pour pouvoir se protéger.
C'est la fin de ce numéro d'ActuCovid. Merci pour la confiance que vous portez à nos programmes. Suivez les conseils des médecins pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus.
Studio Tamani. Studio Tamani, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse, de la République tchèque et par l'Union européenne.
Actualité à l'intérieur du pays, plus d'une cinquantaine de personnes vivant avec le VIH-Sida ont bénéficié lundi dernier du riz, du sucre, du savon et des antirétroviraux. Ce geste du secrétariat exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le Sida vise à soutenir les personnes vivant avec le VIH en cette période de soudure. La cérémonie a été mise à profit pour lancer une campagne de dépistage volontaire au sein de la population afin de lutter contre le fléau. Koutiala, une trentaine de femmes leaders de la coopérative de femmes transformatrices de produits agroalimentaires de Ntogo Nasso échangent depuis lundi dernier sur la notion de genre, leadership transformationnel et communication. La rencontre est organisée par la société des coopératives simplifiées Kotonyogontala. Elle vise à renforcer les capacités des participantes sur le leadership et la communication. L'atelier prend fin aujourd'hui. Plus de 600 millions de francs CFA, c'est le montant d'un nouveau projet lancé jeudi dernier à Ségou. Cette initiative de l'ONG Educo est intitulée « Réponse aux besoins éducatifs des enfants affectés par les crises dans la région de Ségou ». Elle vise, selon ses responsables, à améliorer l'accès des filles et garçons au système éducatif. Plus de 27 000 personnes devraient être touchées par cet appui. Il est cofinancé par l'Union européenne pour une durée de 18 mois. Et c'est ce qui met fin à ce journal présenté par Sekou Gadjigo à la mise en onde de Gagny Kanté. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez réécouter cette édition sur notre site studiotamani.org ou en appelant sur la plateforme Viamo 37 321.